Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, jusqu'à 20h,
le monde tel qu'il est.
Thomas Soto.
Le monde tel qu'il est avec ce soir une médecin, docteur Agnès Ricaribon, bonsoir. Vous êtes présidente de la Société française de médecine d'urgence, bienvenue à vous.
Merci à vous.
Avec nous Marie-Estelle Dupont, notre psychologue, clinicienne, psychothérapeute et auteur. Bonsoir Marie-Estelle.
Bonsoir.
Et Charles Mazet, jeune actif breton, 26 ans je crois Charles, bonsoir.
Bonjour.
Vous avez tiré la sonnette d'alarme pour alerter sur le risque de génération sacrifiée. Vous avez d'ailleurs co-signé une tribune. La génération confinement paiera pour les boomers, c'était dans le monde au début du mois de septembre. Bonsoir et bienvenue à tous les trois.
Le mot du jour.
Eh bien le mot du jour c'est vague. Ah oui, deux fois. On en sourit avant peut-être d'avoir à en pleurer. La deuxième vague du coronavirus est là. C'est le Premier ministre qui l'a dit ce matin. C'était chez nos confrères de France Info.
Le virus, il était caché, mais il était toujours là.
Peut-être
et nous sommes dans une
ministre.
Deuxième vague forte.
Nous sommes dans une deuxième vague forte. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais plus très bien où mettre ma jauge d'inquiétude ce soir. Qui a peur ? Est-ce que vous êtes inquiète, docteur ?
Alors, l'inquiétude immobilise, donc on est plutôt vigilant. C'est vrai que la situation se tend dans les hôpitaux.
Elle est grave ou pas, la situation ?
Oui, elle est grave pour une raison très simple, c'est qu'en vague 1, on a pu avoir une entraide interrégionale, voire même transfrontalière, avec des transferts qu'on pouvait faire vers des régions qui étaient moins impactées. Ce qu'on ne va pas pouvoir faire là, puisque toutes les métropoles sont impactées. Mmh. Et même dans le Grand Est, on avait transféré en Allemagne, en Belgique, et ça ne va pas être possible. Et
y avait Donc on est moins bien équipé que lors de la première vague, médicalement parlant ?
Les soignants se forment pas comme ça. Il faut du temps pour former des soignants. Donc, lors de la première vague, on a doublé, voire triplé les services de réanimation, notamment en Île-de-France, mais avec des renforts qui sont venus de toutes les régions.
Et là, ce qu'on comprend, c'est que chacun sera occupé chez soi.
C'est un peu ça. Alors, toutes les régions ne sont pas touchées. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de renfort ni de transfert, mais en tout cas, les possibilités vont être restreintes. Et là, on sent en plus le personnel soignant qui est extrêmement mobilisé, hein, mais qui est fatigué et qui voit avec une certaine inquiétude, effectivement, là, c'est 60% hein, d'occupation dans certaines réanimations.
Charles Mazet, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous avez peur, vous, de cette deuxième vague aujourd'hui ?
En n'ayant aucune expertise médicale et en étant uniquement un citoyen comme un autre, je pense que n'importe qui est inquiet de la vague déjà Covid et après de la vague économique et de la vague psychologique qui va venir. La question après, c'est on est aujourd'hui dans une situation où on a des mesures qui sont prises pour lutter contre la nouvelle vague. Comment est-ce qu'on détermine les mesures futures si jamais la situation était amenée à empirer, comment est-ce que le gouvernement adapte les mesures qui sont prises et comment est-ce qu'il arrive à faire la balance des intérêts entre l'intérêt médical, l'intérêt économique.
On va y revenir sur cet arbitrage entre économique et médical et où est-ce qu'il faut placer le curseur là encore. Marie-Estelle Dupont, on sait bien que la peur n'écarte pas le danger, c'est pas la psy que vous êtes que je vais la prendre, mais est-ce que vous êtes inquiète ? Est-ce que vos patients sont inquiets ? Qu'est-ce que vous entendez, vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Alors moi je ressens, mais je suis à Paris, peut-être qu'à Paris c'est amplifié, les gens sont vraiment mal.
En zone d'alerte maximale.
Ils sont vraiment mal, ils sont extrêmement stressés, ils sont anxieux, la peur immobilise et fait prendre des décisions dans la panique, donc les gens se sentent confus, ils se sentent perdus. Il y a une angoisse économique, il y a l'angoisse sanitaire qui est très présente. Et puis, moi, j'ai retrouvé des gens, en fait, après le confinement, chez qui les troubles psychologiques qui avaient été à peu près stabilisés par la thérapie avaient à nouveau décompensé pendant le confinement. Mmh. Donc, on est dans un équilibre, on est sur une ligne rouge. Et moi, en tant que soignante, en fait, je ressens vraiment la pression des deux côtés. D'un côté, on ne peut pas engorger les hôpitaux parce que pour les soignants, la deuxième vague, c'est pas une nouvelle expérience, c'est un épuisement. Ils sont en burn-out, ils sont à bout, ils n'auront pas de vacances. S'ils sont à bout, ça veut dire qu'ils sont faibles immunitairement, donc ils sont hyper exposés, encore plus qu'au début où ils se battaient pour avoir des lisières. Et d'un autre côté, les gens qui ont été confinés, pour beaucoup, ça a fait exploser des troubles psychosomatiques et des troubles anxieux qui étaient déjà présents de façon latente.
À qui la faute, en fait ? C'est à nous tous qui ne respectons pas assez les gestes barrières ou les précautions élémentaires supplémentaires à prendre? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui n'a pas su prendre les mesures? À qui la faute, docteur, aujourd'hui?
C'est multifactoriel. J'irai pas chercher la faute. Moi, j'irai surtout chercher la responsabilité collective. En médecine, on raisonne beaucoup en avantages-inconvénients, bénéfices-risques. Et depuis le début de cette épidémie, je défie quiconque de dire je détiens la vérité suprême et c'est comme si qu'il faut faire et c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Là, il faudrait commencer à savoir comment il faut faire quand même, parce que ça fait 6-8 mois qu'on traîne ça et on sent que ça va pas s'arrêter.
Non, ça va pas s'arrêter, ça va durer. Et effectivement, il y a une responsabilité collective qui est importante. Et vis-à-vis des jeunes, on a probablement pas très bien communiqué vis-à-vis des jeunes parce que ils se sentaient légitimement moins impactés parce qu'ils font moins de formes graves, sauf qu'ils sont impactés à un triple titre. D'une part, ils peuvent avoir des contaminations intrafamiliales et entraîner des drames. Ils sont les premières victimes des reconfinements, des fermetures des bars et qu'ils vivent assez mal. Et puis, ils sont les premières victimes de la crise économique qui suit la crise sociale.
Et ça, c'est ce qui vous inquiète, Charles Mazet. Vous sentez responsable, vous, pas de la situation?
Alors, à
pas
titre
vous personnellement, non, on est forcément d'accord. Mais...
Non, à titre collectif, je pense que, évidemment, tout le monde tape sur les jeunes à bras raccourcis. Les jeunes, évidemment, ils se sentent moins fragiles face au Covid que les personnes plus âgées.
Et donc, ils sont moins responsables?
Ils peuvent avoir des comportements moins responsables, peut-être. Mais est-ce qu'on va dire, si la crise est amenée à durer, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui vit dans un 15 mètres carrés, tu ne peux pas aller en cours, tu ne peux pas aller faire du sport, tu ne peux pas aller dans un bar, tu ne peux pas aller au restaurant demain? Enfin, il y a un moment...
Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en période de crise, on cherche toujours un coupable. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, parce que ça rassure deux minutes d'avoir un coupable. Mais tout le monde a sa part de responsabilité. Et ce qui est triste, c'est de voir que parfois, le simple manque de bon sens de certains en met d'autres en danger. Alors je pense qu'effectivement, vous avez raison, on a mal communiqué avec les jeunes. Et qu'en fait, leur expliquer qu'ils sont pas tout puissants au niveau de leur système immunitaire, qu'ils s'en rendent pas compte parce que c'est légitime d'avoir envie de faire la fête... quand il commence à faire beau au mois de juin, mais que ça peut faire des malades dans leur famille. Ils peuvent l'entendre, ils sont intelligents, ils ont un cerveau.
Il n'y a pas que les jeunes. Tout le monde cet été a eu besoin de relâcher un peu, honnêtement.
Oui, mais on se disait justement avant l'émission que c'était certainement en juillet que ça avait que ce qui se passe maintenant, en fait, c'est cristallisé en juillet.
Je voudrais qu'on écoute ce qui se passe en Belgique, au Québec ou encore en Grande-Bretagne, où on n'a carrément plus le droit de recevoir des gens à la maison.
Vous invitez des gens chez vous à la maison, c'est maximum 4 personnes. Vous allez dans un café qui doit fermer plus tôt, c'est maximum 4 personnes.
Quelqu'un qui fait un party dans sa maison, il est en contravention de la loi.
You must not...
Vous ne devez pas vous retrouver dans des groupes à plus de 6, que ce soit à la maison ou dans les pubs.
Docteur Agnès Ricaribon, est-ce que c'est ça qu'il faut imposer en France, d'un strict point de vue, je ne vous demande pas de faire de la politique, mais d'un strict point de vue médical?
D'un strict point de vue médical, il faut limiter les contacts. Et effectivement, il ne faut pas s'interdire de vivre, mais il faut vivre avec moins de personnes, moins de contacts, limiter le nombre de personnes que l'on croise et favoriser les endroits où on peut avoir la distance. C'est vrai que les bars, faire de la distance sans masque, c'est compliqué. Par contre, il y a certains restaurants...
On a l'impression que tout le monde tourne un peu autour du pot. Oui, il ne faut pas s'interdire, mais oui, il ne faut pas ceci, mais...
Non, la limitation à 6, c'est du bon sens.
Il y a aussi du bon sens. Moi, en ce moment, je ne fais pas une soirée chez moi à 25 personnes, quoi.
Exactement.
Enfin, c'est pas le moment.
Vous n'avez plus d'amis. Charles Mazet.
Parlez pour vous.
Charles Mazet, vous, quand vous entendez ça, vous dites, oui, moi, je ne vais plus recevoir des potes à la maison, je ne vais plus...
Moi, quand j'entends ça, je me dis, objectivement, il y a des gouvernements qui ont perdu le sens de la réalité, parce qu'en fait... Le but du gouvernement, vous voyez, vous êtes médecin, un médecin, son but c'est de sauver des vies, il est tout à fait légitime qu'il ait pour objectif premier de sauver des vies. Le but du gouvernement, c'est pas ça. Le but du gouvernement, c'est de faire la balance des intérêts des différents groupes, de décider ce qui est le mieux pour la société comme un tout. Et là, quand on voit un gouvernement qui dit « je vais aller vérifier que vous ne faites pas de soirée chez vous », il devient orwellien et il devient complètement coercif.
Ouais, où est la limite de ce qu'on peut accepter, Marie-Estelle Dupont, dans l'intrusif et dans la défense de l'intérêt général? Où est-ce qu'on, jusqu'où on peut pousser le bouchon?
Je pense que de toute façon, il y a un problème pour l'acceptation. Pour accepter des réglementations très strictes, il faut vraiment que le message soit très cohérent, qu'il y ait beaucoup de cohésion. C'est ce que je disais au moment où les gens retournaient en entreprise et que là, il y a eu des messages qui n'étaient pas forcément cohérents. Et puis, d'autre part, attention à ce que les gens ne se disent pas au bout d'un moment que la maladie, elle a bon dos, mots, finalement, pour justifier, par l'argument de la survie, de la gravité, de la pandémie, des décisions liberticides qui s'inscrivent aussi dans un contexte où il y avait déjà beaucoup de décisions liberticides dans notre pays. Donc voilà, c'est ça qui est difficile à trouver comme équilibre. C'est que bien sûr, il y a tout ce qu'expose Madame sur la vérité sanitaire et les hôpitaux. Et d'un autre côté, au bout d'un moment, ne plus pouvoir montrer son visage dans la rue, alors qu'il y a des lois en France qui demandent de le faire pour pas qu'il y ait trop de violence. Voilà, c'est, ça devient la maladie comme l'argument. Bah, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de fêtes, on ne montre plus son visage, on ne peut plus se toucher. Ça devient quand même extrêmement coercitif.
On marque une petite pause et on poursuit ce débat juste après. A tout de suite, Le Monde tel qu'il est revient sur RTL.
RTL Soir,
Le Monde tel qu'il est. Thomas Soto,
RTL Soir jusqu'à 20h.
Le Monde tel qu'il est.
Le Monde tel qu'il est avec Marie-Estelle Dupont, le docteur Agnès Ricaribon et Charles Mazet. On parle donc de cette deuxième vague qui est là, qu'on est en train de se prendre en pleine figure et qui est une vague forte, comme l'a dit le Premier ministre. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement veut éviter un reconfinement généralisé.
Le reconfinement général doit être par tout moyen évité. Encore une fois, c'est possible si nous nous y mettons tous. Rien ne doit être exclu. Quand on voit la situation dans nos hôpitaux.
Rien ne doit être exclu, dit Jean Castex. Et un peu plus tard, tout à l'heure, à 18h15, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, était avec nous dans RTL Soir et il nous a parlé particulièrement de la situation à Paris.
Oui, à un moment donné, il faudra prendre des mesures supplémentaires si la situation que nous constatons ces derniers jours encore se confirme et s'accélère encore.
Alors, il faudra prendre des mesures supplémentaires. Il se murmure que ça pourrait être une fermeture de tous les commerces, peut-être le soir à partir de 20h ou de 21h. On ne sait pas trop si ça concernerait les restaurants ou pas. Quand vous entendez ça, Charles Mazet, qu'est-ce que vous dites, vous qui avez peur d'être la génération sacrifiée et d'être tuée économiquement? Et je mets des guillemets à tuer, évidemment.
Bah, quand j'entends ça, je suis presque aussi inquiet que quand on me dit la deuxième vague est là, parce que tous les commerces qui doivent fermer à 21h, alors... Là, on parle de commerce alimentaire, de commerce non alimentaire aussi. En plus des bars, en plus des restaurants, on se dit jusqu'où va aller, où vont aller les mesures qui vont être appliquées dans cette deuxième vague. Et les commerces qui ont été fragilisés par la première vague, combien de temps vont-ils pouvoir résister à des mesures à ce point coercitives? Et donc la question c'est, est-ce que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, enfin est-ce que la population va pouvoir retrouver un emploi à l'issue de ces deux vagues de Covid et retrouver un chemin vers la prospérité?
Docteur Ricaribon, vous avez besoin médicalement de mesures comme celle-là éventuellement?
Mais pourquoi on prend ces mesures? Pour protéger la population. La grande angoisse des soignants aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir soigner quelqu'un qui a des chances de survie et d'être obligé de restreindre l'accès en réanimation pour des mesures capacitaires et non pas sur des critères médicaux et éthiques.
De faire du tri, pour dire les choses
exactement,
brutalement.
C'est ce qui s'est passé en Italie et en Espagne.
En France aussi, lors de la première vague
Un tout petit peu en Grand Est, mais en Île-de-France, on est passé juste en dessous de la barre, grâce au transfert, grâce au renfort. Là, il est encore temps, justement, de pouvoir... aplanir cette courbe pour ne pas se retrouver dans cette situation d'être obligé d'avoir des critères qui ne sont pas médicaux et éthiques.
Et en fait, moi, ce que j'entends dans mon cabinet, c'est ce dilemme cornélien entre, voilà, à 14h, je vais recevoir un restaurateur ou une femme qui tient une boutique et qui vont mettre la clé sous la porte s'il y a encore plus de restrictions et leur détresse économique, elle est sans nom. Et à 15h, j'ai une infirmière qui pleure parce qu'elle a dû condamner un patient, faire un choix éthique et qu'elle s'en souviendra toute sa vie parce qu'elle a l'impression d'être celle qui lui a pris la vie. Donc on est dans un dilemme cornélien, oui. Et en fait, je crois qu'il faut vraiment qu'on accepte tous de tolérer peut-être un petit peu plus de frustration pour éviter une mort sociale et économique complète avec des dégâts infinis.
Moi, je vais vous raconter un peu ma vie. Ce week-end, je suis allé au restaurant, on n'était pas nombreux, en famille, voilà. Et dans le restaurant, on a vu débarquer la police. Et le restaurateur nous dit, mais ça fait 3 fois qu'ils passent parce qu'ils viennent contrôler les machins, etc. J'ai trouvé ça extrêmement
anxiogène.
Je sais pas, oppressant ou anxiogène. Comment est-ce qu'on doit se résoudre à ça? C'est normal?
Mais oui, mais de la même manière que quand il y avait Vigipirate au début, on disait, tiens, c'est anxiogène, il y a des militaires, mais en fait, c'est pas les militaires qui sont anxiogènes, c'est les terroristes.
Mais est-ce que vous n'êtes pas rassuré par le fait de voir que justement les mesures de distance sont appliquées dans l'intérêt de votre protection à vous?
Si, enfin, je juge pas ça, il y a pas. C'est juste que je trouve que physiquement.
Bah oui, le climat est anxiogène, tout nous rappelle ça, mais les masques.
Une brigade de police qui débarque, qui regarde, tiens, ils sont combien là, qu'est-ce qu'il y a à la distance, machin.
Mais vous trouvez ça plus anxiogène qu'avoir le masque dans la rue et de plus voir le visage des gens qui vous sourient?
Charles Mazet.
Moi, je trouve qu'on a tout un ensemble de mesures qui se construit et qui viennent s'additionner les unes aux autres et qui construisent finalement un monde dans lequel on n'a pas du tout envie de vivre.
Ah bah à Paris, le climat est horrible.
Objectivement, des mesures qui, pendant 6 mois ou 1 an, continueraient à avoir des flics qui débarquent dans un restaurant pour contrôler ou compter le nombre de personnes, devoir porter un masque ad vitam aeternam, enfin... Il y a un risque de s'habituer à quelque chose qui n'est pas normal, en fait.
Et pendant ce temps-là, Wuhan, on fait la fête. Wuhan, vous savez, c'est en Chine. C'est là qu'est, c'est le, présenté comme le berceau du coronavirus. C'est là qu'il est apparu. Extrait du 3 minutes pour comprendre à 7h20 ce matin. C'était avec Stéphane Pambrin.
Les bars, les boîtes de nuit et les restaurants sont pleins à Wuhan. Jusqu'au 8 avril, on ne pouvait pas sortir du tout de chez soi à Wuhan. Alors aujourd'hui, évidemment, on veut profiter de la vie. L'hiver approche en Chine. Tout le monde redoute une possible deuxième vague, mais la Chine reste fermée au reste du monde.
Ils sont meilleurs ou ils sont menteurs, les Chinois? Vous auriez préféré, Charles, qu'on confine plus durement comme à Wuhan à l'époque et puis au moins c'était réglé? Vous les croyez?
Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel j'aurais du mal à vous donner un avis éclairé, c'est bien l'épidémiologie et ce qu'il aurait fallu faire en mars. La perception que j'ai, c'est qu'on n'avait pas de masque, on a 3 fois moins de lits de réanimation qu'en Allemagne. Est-ce qu'on aurait pu, en réalité, avoir une autre politique? J'en ai aucune idée.
Les lits de réanimation, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on n'a pas la même définition que les Allemands en ce qui concerne les lits de réanimation. Donc les chiffres, c'est une vieille polémique qu'on a déjà eue. Ricard Ribon, vous comprenez, vous, que l'épidémie ait pu disparaître comme ça en Chine ou pas? Est-ce que médicalement, scientifiquement, ça se tient? Moi, j'avoue que ça m'interpelle.
On n'a pas les mêmes fonctionnements de société et on n'a pas eu les mêmes mesures coercitives. Est-ce que les mesures qui ont été prises en Chine auraient été applicables en France?
Vous avez la réponse?
Je ne crois pas. Clairement, je ne crois pas. En France, on a essayé d'avoir des mesures qui emportent l'adhésion de la population. Pour qu'elles soient bien appliquées dans notre civilisation occidentale, il faut emporter l'adhésion. Pour ça, il faut avoir des messages clairs et avoir une responsabilité collective. Ça n'a pas été, c'est pas le même fonctionnement en Chine ou en Corée ou...
Il faut emporter l'adhésion. Vous les comprenez, vous, les mesures qui sont prises aujourd'hui, Charles, ou pas?
Oui, je trouve que c'est un excellent point, la question de la communication gouvernementale autour du Covid. Parce qu'on a parfois l'impression que le gouvernement, sur la partie sanitaire, est un peu le dactylographe du conseil scientifique, et qu'ils se disent, sur la partie économique, on va venir compenser tout ça à coup d'argent public. Le problème, c'est que... Il faudrait qu'il nous explique à nous, les jeunes, mais pas qu'aux jeunes, également aux moins jeunes. Voilà, on a pris en compte la situation sanitaire, on a pris en compte la situation économique, les ravages que va causer le confinement ou le confinement larvé qu'on est en train de vivre sur l'économie, la psychologie. Et à l'aune de tous ces éléments-là, on a pris la décision de... Aujourd'hui, ils nous disent, le conseil scientifique a dit que, donc...
Et encore, ils ne sont pas toujours d'accord avec le conseil scientifique non plus. Marie-Estelle Dupont, pour finir, on sent une anxiété qui monte, une déprime, peut-être même une dépression. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça?
Là,
il faut
de toute façon, si je rebondis sur ce que disait monsieur, c'est sûr que les jeunes, ils se demandent aussi qui va payer pour tout cet argent qui est injecté. Et a priori, c'est plutôt leur génération et la génération d'après. Donc c'est normal qu'ils soient anxieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut faire fond sur soi-même dans les périodes de crise. Ne pas attendre la solution miracle du gouvernement qui n'est pas magicien, n'est pas druide, n'est pas... Voilà, donc voilà, il ne savait pas, il n'avait pas de recul. Aucun gouvernement ne pouvait réussir, j'ai envie de dire, dans cette crise, parce que de toute façon, ils étaient pris de court. Donc ça ne sert à rien de critiquer, il faut faire des demandes. Après, quoi faire? Faire fond sur soi, sur ses ressources personnelles, se recentrer sur l'essentiel. Et puis, pour les gens qui avaient des troubles, parce que ça a fait exploser toutes les autres maladies dont on ne s'est plus occupé, continuer à consulter en téléconsultation. Ne laissez pas la dépression vous envahir en pensant que, comme il y a le Covid, vous n'avez pas le droit d'en parler.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir ce soir, en tout cas, pour ce nouveau numéro du Monde tel qu'il est. Dans un instant, c'est le Monde de demain, avec la bande d'RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir.
Le Monde tel qu'il est.
RTL Soir.
Avec Thomas Soto, le Monde de demain.
C'est pas avec moi le Monde de demain, c'est avec toute la bande d'RTL Soir. Amandine Bégaud qui est avec nous. Nous avons Cyprien Sini,
toujours là.
Nous avons notre réalisateur Grégory Garanoni. Bonsoir Greg.
Tous.
Et puis nous avons Victoire de Reinxin.
Bonsoir.
Victoire en régie. Ça va, Victoire?
Ça va.
Eh ben tant mieux. Dans le Monde de demain, Amandine, on va pouvoir faire... Oui, on va pouvoir faire une omelette sans casser d'œufs.
Ah, ça vous inspire.
Ah
hein.
Oui.
Fini le petit bout de coquille qui tombe dans le plat et qu'on essaie, vous savez, tant bien que mal avec de récupérer. Doigts, il y a ceux qui font avec les doigts, d'autres.
Vous savez que j'ai toujours cru que ça donnait l'appendicite, ça, quand j'étais petit. Ben de manger une coquille.
Merci.
Ah ouais, ah, vous avez eu cette légende urbaine.
Eh bien, terminé.
J'ai cru aussi quand on faisait pipi dans la piscine, et ben ça devenait tout bleu autour.
Ah oui, mais ça aussi, mais moi je continue à le dire.
Bon, bref, c'est une parenthèse.
Dans le monde de demain, l'œuf, figurez-vous, sera liquide. Liquide et. Et ça, ça va intéresser tous ceux qui sont allergiques aux œufs, et ils sont nombreux, il sera 100% vegan. Une start-up indienne vient en effet de mettre au point un œuf à base de protéines de légumes, plus besoin de poules donc, concrètement...
Vous mettez toutes les poules au chômage, chômage partiel pour les poules.
Alors le site Futura Science nous explique, les protéines sont extraites du légume, puis fermenté avant d'être injecté d'agents de texture. Alors, je le reconnais, ce n'est pas forcément très appétissant, dit comme ça, mais cet œuf-là, paraît-il, c'est en tout cas ce que dit son créateur, serait plus moelleux que l'œuf ordinaire. Autre avantage, cet œuf liquide peut se garder jusqu'à 6 mois au frigo, c'est pas rien. Et puis, figurez-vous qu'il n'y a pas qu'en Inde qu'on travaille sur un œuf vegan, c'est le cas aussi en France. Et oui, cocorico, ça tombe bien. Deux jeunes diplômés en biologie et chimie sont en train de mettre au point un œuf à base d'ingrédients d'origine végétale et minérale, des œufs qu'elles ont baptisés merveilleux. Vous comprenez,
Jean-Paul ? Merveilleux.
Voilà, merveilleux. Je les ai eu au téléphone. Commercialisation prévue, nous disent-elles, courant 2021. Alors pourquoi tant d'engouement autour de ce type d'innovation ? Eh bien, parce que le marché du vegan est un marché en pleine expansion, parce que l'œuf aussi est l'un des produits les plus difficiles à substituer, à remplacer. Alors même que c'est l'un des aliments les plus consommés dans le monde, brouillé au plat, en omelette ou en gâteau. Ils sont partout. Vous savez d'ailleurs combien on en consomme, messieurs ?
Des œufs ?
Oui, chaque année.
145.
Il a lu 145 par an et par habitant. Mais attention, c'est une moyenne, c'est une moyenne mondiale. En France, combien, Cyprien? Ah, il fallait chercher un peu. 230 et 300 au Danemark. Les œufs ont même leur journée mondiale depuis 25 ans, oui. C'est le deuxième vendredi de chaque mois d'octobre. Cette année, c'était donc le 9.
C'est très joli.
Amandine, on peut pas faire des œufs pochés, tout ça avec votre truc là.
Je ne sais pas. Je crois que c'est tout déjà mélangé. Je suis pas sûre. Voilà.
De toute façon, on n'a pas envie de faire grand chose avec. Hein.
Non.
Ouais. Ouais, bon. Moi, je suis d'accord.
Mais bon, pour ceux qui sont allergiques, par exemple, c'est bien.
Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, comme tous les jours, Amandine, votre bon point, votre carton rouge ce soir. Encore ?
Carton rouge.
Ben oui.
Oh, elle est dure, la prof.
Bon, vous vous souvenez de ces vols pour nulle part dont nous parlait Cyprien il y a deux ou trois semaines ?
Ah oui, en avion, on décollait, on partait nulle part.
Voilà. Eh bien, l'idée a fait des petits dans le monde de demain. On partira en croisière pour nulle part.
Puis alors, c'est bien polluant en plus. Bah, hein.
On n'arrête plus le progrès face au succès donc, de ces avions qui proposaient aux voyageurs en manque de voler.
C'est lié au succès, en vrai ?
Oui, non. Mais vraiment.
Mais c'est à cartonner, les avions.
Part, les compagnies maritimes de Singapour ont eu l'idée de décliner le concept. Elles aussi souffrent terriblement de la crise sanitaire et elles proposent donc désormais des ronds dans l'eau, sans but ni destination. C'était vrai carton. Leur téléphone, explique le site Cori, s'est immédiatement mis à ressonner et le succès est tel que les autorités de Singapour ont mis en place une certification spéciale. Ça s'appelle Cruise Safe, croisière en toute sécurité. Alors il faut remplir un certain nombre de. Enfin, cocher un certain nombre de cases. Les navires ne doivent pas transiter par un autre port que celui de Singapour. Leur capacité doit être réduite. Un système de ventilation doit être mis en place.
Faut
et les passagers.
Tester.
Eux, bien sûr, doivent se faire tester. Il y a un petit point positif quand même par rapport au vol pour nulle part.
Vous avez trouvé un point positif
sur un bateau de croisière, on peut passer plusieurs jours. Il y a plein de loisirs, des choses à faire. On peut dîner aussi. Bon, bref, c'est peut-être une nouvelle option pour nos vacances.
Non. Oui, et eh ben on va pas partir en vacances ensemble.
Bah non,
des ronds dans l'eau, il y en a des beaux peut-être. Est-ce que tu les as, Greg?
J'ai une version de Françoise Hardy.
Ah. Soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau, tu prenais du plaisir.
Pas mal.
Ah, ils étaient beaux ceux-là de rond dans l'eau. C'est autre chose que vos croisières Costa là. Pardon.
Oh là là.
Faut que j'en cite une autre. MSC, machin, je sais pas quoi.
MSC, c'est les bateaux, non? Enfin,
je sais pas.
C'est pas les.
Ne m'enfoncez pas. Ne me noyez pas.
Aussi. Ah aussi.
Ouais, ça marche. Bon.
Allez, dans un instant, c'est Cyprien Sini pour Le Monde de demain. Déjà, on a bien dîné avec les œufs d'Amandine.
C'est sympa.
On va réfléchir.
Ça donne un peu le mal de mer, tout ça, bien.
Ouais.
RTL Soir.
Le monde tel qu'il est.
Thomas Soto.
RTL Soir jusqu'à 20h.
Le monde de demain.
Le monde de demain avec Grégory Caradoni, avec Victoire en régie, avec Amandine Bégaud, avec Cyprien Sini et avec Jean-Alphonse Richard qui nous a rejoint. Bonsoir,
Jean-Alphonse.
Alors Cyprien, de quoi tu vas nous parler ?
Eh bien,
Oui.
Dans le monde tel qu'il est, ce qui différencie encore l'homme et la machine, c'est d'être capable de penser, d'analyser, ou même, soyons fous, de mentir. Mais dans le monde de demain, la frontière intellectuelle entre l'homme et la machine pourrait bien disparaître. Ça, c'était pour créer un peu de tension, de suspense. Bref, vous connaissez le concept d'intelligence artificielle, ces robots, ces bots, comme on dit, qui vous répondent, type Siri, Alexa ou Google, exemple. Dis Siri, il est sympa, Thomas Soto ?
Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment.
Vous noterez toute l'habilité de cette intelligence artificielle qui préfère botter en touche plutôt que de dire la vérité désagréable. Bref, là, on est sur l'intelligence artificielle de base. Mais la semaine dernière, sur le réseau social Reddit, il s'est passé quelque chose d'à la fois prodigieux
sur
et très inquiétant. Reddit.
Oui, vous le redites.
Reddit, yeah. Oui, c'est formidable, Reddit. Bref, pendant une semaine, des milliers d'internautes ont conversé avec un philosophe. Un philosophe répondant avec intelligence, empathie et capacité d'analyse. Un philosophe qui, dans ses réponses sur la mort, la vie, la passion, a parlé de ses parents, de ses expériences personnelles, de son passé. Il était émouvant, brillant, sauf que derrière le masque du philosophe se cachait en fait un robot, une intelligence artificielle complètement autonome, capable de s'inventer un passé, de mentir pour paraître plus humaine. Les internautes n'y ont vu que du feu, jusqu'à ce que la vitesse d'analyse, de réflexion et d'écriture alerte les plus perspicaces. Oui, parce qu'en fait, le robot philosophe, il était quand même capable de pondre des réponses de plusieurs pages presque instantanément, ce qui est humainement impossible.
Mais je suis
même
rapide,
pour vous,
je suis rapide, ce que je vous dis.
Ouais, non mais là, une fois démasqué, le robot a été débranché, mais cette démonstration de force fait tout de même légèrement froid dans le dos. D'ailleurs, histoire de bien vous inquiéter, sachez que le mois dernier...
Pourquoi vous voulez nous inquiéter?
Parce que c'est comme ça.
Vous trouvez qu'on va déjà suffisamment bien?
Ah oui, c'est mieux avec...
Sachez que le mois dernier, le quotidien britannique The Guardian a publié un éditorial uniquement rédigé par une intelligence artificielle.
Sans prévenir
personne. Non, sans prévenir personne. Les lecteurs ont halluciné. Le lendemain, ils ont expliqué la démarche. Et c'était, paraît-il, tout à fait crédible. Ce qui me fait dire que dans le monde de demain, il va falloir qu'on se trouve un nouveau job aussi, nous, les amis.
Ce sera des robots à notre place,
Oui, Grégory, tu voulais dire quelque chose?
Non, je pourrais...
C'est pas Grégory qui parle, là.
C'est un robot.
Ah oui, c'est possible.
Je suis votre nouveau réalisateur.
Pas mal.
Ah ouais.
Moi, je trouve ça formidable, Cyprien, pour passer le bac philo. On emprunte le robot, là, et hop.
Exactement. Et alors, justement.
La culture de la gruge par Victoire.
Voilà.
Non, mais là, la boîte qui a réussi à créer cette intelligence artificielle en donne la licence qu'à très peu de personnes pour justement pas que ce soit utilisé.
C'est effrayant.
Vous êtes bien placé pour parler d'effrayant, vous tiens.
Une manipulation totale.
Ouais, et c'est une nouveauté que l'intelligence artificielle soit capable de s'inventer un passé. Et de soit capable de l'utiliser à bon escient et de mentir à bon escient. Normalement, elle savait pas faire ça.
J'ai le droit de dire que ça m'angoisse vraiment, ces trucs-là, ou pas?
Parce
que
franchement. Mettre la petite musique.
Mais vous pouvez,
Non, pas la petite musique.
Mais c'est la vie.
Oh non! Pas la petite musique! Pas la petite.
Non, on est trop
vite. Je vais faire comédien.
C'est moi et je
La transition est belle ce soir pour vous, c'est l'heure du crime.
C'est moi et c'est moi qui vais vous parler ce soir et pas un robot. De l'affaire Rouxel. Parricide et matricide.
Oui,
au Pays Basque.
M'appelle ça la complète.
Les deux fils soupçonnés, un seul sera finalement accusé, avec son épouse, argent, jalousie, c'est tous les ingrédients d'un drame à huis clos. Puis il y aura le procès très prochainement, donc c'est pour ça qu'on en parle.
Voilà. Vous savez que j'ai un problème avec vous, c'est que chaque fois que je commence à vous écouter, je reste jusqu'au
bout. Mais c'est ça qui est bien.
C'est incroyable.
C'est son talent, ça.
C'est l'effet C'est pas sorcier. Quand j'étais petit, je regardais C'est pas sorcier, je tombais dessus, tac, je restais. Jean-Alphonse Richard, c'est pareil.
Ça me fait très plaisir. J'espère que les auditeurs nous suivent, évidemment.
Enfin, quand j'étais petit, C'est pas sorcier, c'était pas si vieux, C'est pas sorcier. Je suis désolé, Thomas.
Remets la musique suspense.
Parce que c'était il y a quoi, 10 ans
Je vais te tuer.
Mais tu seras quand même demain chez Yves Calvi dans la matinale d'RTL.
Absolument.
Merci à tous. Dans un instant, l'heure du crime, il sera 20h. Ce sera juste après le rappel de l'actualité avec Céline Landreau.
RTL Soir.
Le monde tel qu'il est.